Radio Rythme Bleu, il est 17h45, Info Soir, c'est avec vous Isabelle Pelletier.
Sixième reddition ce matin à Saint-Louis. Cinq individus s'étaient déjà rendus hier à la gendarmerie pour des faits d'une très grande gravité comme des tirs contre des gendarmes, des carjackings ou encore l'incendie de l'église de Saint-Louis. À Paris, les élus calédoniens multiplient les rencontres avec le ministre fraîchement nommé aux Outre-mer, François-Noël Buffet. Interdiction de l'utilisation du feu à usage non domestique sur la commune du Mont-d'Or, une mesure forte dans un contexte d'intense sécheresse. La province sud se mobilise aux côtés des demandeurs d'emploi. Ils sont en augmentation de 25% depuis le début des émeutes. Et puis le site historique de l'île Nour rouvre ses portes demain après 4 mois de fermeture. Il était resté fermé depuis le 13 mai. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Cinq individus recherchés s'étaient rendus hier à Saint-Louis et ce matin, c'est une sixième personne qui s'est présentée à la gendarmerie. C'est une avancée importante, Elisabeth Noir, dans la sécurisation de cette partie du territoire.
Oui, une sixième reddition ce matin à Saint-Louis, celle d'un individu qui était recherché pour des tirs sur gendarmes. Hier déjà, cinq individus qui faisaient l'objet d'un mandat de recherche pour des tirs contre les gendarmes, des carjackings ou l'incendie de l'église de Saint-Louis, s'étaient rendus à la gendarmerie. Un le matin et quatre l'après-midi. Le procureur de la République, Yves Dupas, qui était en direct ce midi dans notre studio, a tiré les enseignements de ces redditions.
C'est une étape très importante pour nous. C'est bien évidemment procéder à des interpellations sans risque d'affrontement, hors de cette logique d'affrontement infernal que nous avons vécu, que les gendarmes ont dû gérer. Et par ailleurs, c'est un signe aussi que chez ces jeunes délinquants, il y a peut-être une admission d'un principe, la justice doit passer. La justice doit passer, donc je dois venir m'expliquer, bien sûr sous l'influence des autorités coutumières qui ont eu un rôle très positif.
Ces redditions sont un élément important parce qu'elles évitent des interpellations par la force, indique le procureur de la République, et il précise le profil de ces six personnes qui ont choisi de se rendre.
C'est 20, 25, 40 ans, donc mis en cause dans des faits criminels, des tentatives de meurtre sur les gendarmes mobiles avec des tirs au moyen de leurs armes à feu. C'est effectivement la destruction par incendie de l'église de Saint-Louis et des locaux du presbytère. C'est aussi des carjackings avec, pour certains vols de véhicules, l'usage d'armes, donc des vols avec armes, donc des faits très graves, et puis des personnalités aussi qui, pour certaines, en tout cas, présentent une forme de dangerosité dans une action un peu jusqu'au boutiste contre les gendarmes, contre les représentants de l'État.
Des personnes un peu radicalisées, on peut employer le terme ?
Oui, une radicalisation violente, une détermination à aller jusqu'au bout. Chez certains jeunes, il y a une forme de destinée tragique où on peut aller jusqu'à la mort. Et c'est d'ailleurs aussi, je pense, ce qui inquiète leur famille et certaines autorités coutumières.
Ce sont au total 9 personnes recherchées qui ont décidé de se rendre. Le procureur de la République précise que 4 personnes sont encore recherchées, mais elles sont mises en cause pour des faits moins graves et elles ont, dit-il, une dangerosité moins importante. Des redditions qui peuvent notamment avoir une conséquence sur la sécurisation de la RP1. Nous avons demandé au procureur de la République si désormais on pouvait envisager la levée des verrous et la libération de la route.
Alors moi je crois que bien évidemment ces redditions vont avoir un impact positif. Je pense aux Mondoriens, je pense aux gens de Yaté qui ont su patienter dans leur triste sort depuis plusieurs mois. Effectivement, la fin de cette logique, cette spirale d'affrontement avec les forces de l'ordre, avec l'ensemble de ces redditions, devrait conduire à la réouverture de cet axe de la route du Sud. Mais c'est bien évidemment la responsabilité du haut-commissaire. En tout cas, c'est une étape très importante pour l'ensemble des habitants de ces secteurs.
Le haut-commissariat qui indiquait cet après-midi que la décision n'a pas encore été prise concernant une réouverture éventuelle de la RP1. Et vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview du procureur de la République sur notre site internet en audio et en vidéo.
Politique, ça se bouscule à Paris où les élus calédoniens se sont croisés rue Oudinot pour des entretiens avec le nouveau ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, Elisabeth.
Le député de la première circonscription, Nicolas Metzorf, avait rendez-vous rue Oudinot hier soir pour nous. Il voulait notamment faire un tour d'horizon de la situation avant la déclaration de politique générale du Premier ministre Michel Barnier, une déclaration qui aura lieu la nuit prochaine pour nous devant l'Assemblée nationale.
Ça a porté sur les aides financières, bien évidemment, sur comment reprendre les discussions, sur la date des élections provinciales, sur un petit peu la pédagogie sur le contexte en Nouvelle-Calédonie, parce qu'il a besoin de savoir un petit peu l'ambiance sur place. Donc c'est surtout des entretiens qui permettent de mettre à jour le dossier calédonien pour le ministre, parce qu'il y a les notes, il y a ce qu'il sait déjà, et puis il y a... avoir les interlocuteurs en visu, en vrai, et d'entendre de ma voix ce que me disent les Calédoniens que je rencontre. Ce qu'on a convenu, c'est qu'on allait aborder les choses sous l'angle économique d'abord, parce que c'était l'urgence et que ça permettait de remettre tous les Calédoniens autour de la table facilement, puisque tout le monde est conscient de l'urgence économique, sociale, humanitaire du pays. Donc, est-ce qu'il va venir en voyage tout de suite ? On va attendre la déclaration de politique générale du Premier ministre.
Nicolas Mezrov, qui ne participe pas à la délégation interinstitutionnelle, qui multiplie les rendez-vous depuis le début de la semaine à Paris, et qui était reçu peu après par François-Noël Buffet. Là aussi, il s'agissait de faire le point avec le ministre des Outre-mer avant la déclaration de politique générale du Premier ministre, une déclaration dont Virginie Rufnac, chef du groupe Rassemblement au Congrès, attend beaucoup.
Nous sommes convaincus, et nous avons fait un travail depuis plus d'une semaine pour cela, qu'effectivement, il y aura dans la déclaration du Premier ministre, en tout cas nous l'espérons, une part consacrée à la Nouvelle-Calédonie. Nous savons ici, pour avoir vu à la fois les conseillers du Premier ministre, mais aussi le ministre de l'Outre-mer, l'ensemble des parlementaires, la Nouvelle-Calédonie est considérée comme une priorité par l'appareil d'État du fait des grandes difficultés que nous vivons. La cessation de paiement de notre collectivité n'est que dans quelques mois si l'État n'intervient pas massivement pour accompagner ce territoire français du Pacifique.
La délégation interinstitutionnelle qui défend à Paris le plan quinquennal adopté par le Congrès. Elle est composée notamment de plusieurs chefs de groupe au Congrès, mais aussi de certains parlementaires calédoniens et des présidents du CESE ou du Conseil coutumier. Dans un communiqué, elle indique que le ministre des Outre-mer a précisé les axes des actions qu'il entend mener en lien avec le Premier ministre. François-Noël Buffet indique ainsi qu'il faut, selon lui, retrouver l'impartialité de l'État, retrouver le consensus dans le mode de décision de tous les sujets de la Nouvelle-Calédonie, renouer le dialogue rapidement avec tous les partenaires de l'accord de Nouméa et enfin favoriser un retour à l'ordre public le plus rapidement possible. Selon ce communiqué, le ministre des Outre-mer a salué l'initiative transpartisane de la délégation et il a confirmé que le Premier ministre consacrerait un chapitre portant sur les engagements de l'État à l'égard de la Nouvelle-Calédonie dans la déclaration de politique générale qu'il doit maintenant prononcer d'ici quelques heures. J'ajoute que les loyalistes et le Palikat ne participent pas à cette délégation interinstitutionnelle, mais que la présidente de la province sud vient à son tour de partir pour Paris. Sonia Baquet aura de nombreux entretiens, notamment avec le ministre des Armées Sébastien Lecornu, avec le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, avec le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, mais aussi avec François Bayrou, Marine Le Pen ou encore David Lisnard, le président de l'Association des maires de France.
Retour maintenant sur la procédure engagée à l'encontre de Mathias Chaucha. C'est une décision de la présidente de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, Elisabeth Mar.
Une décision qui a été rendue publique hier soir au travers d'un communiqué qui indique que la présidente de l'Université de la Nouvelle-Calédonie condamne avec la plus grande fermeté les propos tenus par Mathias Chaucha lors du conseil d'administration du 27 septembre. Ce qui est en cause, ce sont des propos que le professeur de droit public a tenus après les exactions survenues sur le campus de Nouville dans la nuit du 25 au 26 septembre. Et devant le conseil d'administration, Mathias Chaucha a justifié l'agression du vigile, les deux incendies criminels et la tentative d'incendie avorté par le lien de filiation entre un enseignant-chercheur de l'UNC et une autorité publique qu'il accuse d'être à l'origine du démontage des installations érigées devant le Sénat coutumier. Toujours selon ce communiqué, concomitamment à ses propos provocateurs et agressifs, Mathias Chaucha a par ailleurs délibérément choisi de diffuser ses arguties sur les réseaux sociaux X. Et le même jour, il a été fait publiquement grief à Mathias Chaucha de faire œuvre de propagande politique durant ses cours au lieu d'enseigner sa matière. Ça fait beaucoup, des propos et des agissements jugés inacceptables. Et c'est la raison pour laquelle la présidente de l'UNC a demandé à l'administration d'entamer toutes les procédures permettant de qualifier les faits, propos et agissements de Mathias Chaucha. Une procédure rare, reconnaît Catherine Riss, la présidente de l'Université de la Nouvelle-Calédonie.
C'est une procédure assez rare au niveau de l'UNC et des universités en général. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai entamé une procédure au sein de l'administration de l'université pour voir quelle est la situation suite à donner à cette affaire, si on peut le dire comme ça. Pour l'instant, la procédure n'a pas débuté, sinon la saisine des services de l'université pour dire quelles sont les démarches à faire.
Ce qui vous a incité à faire ça, c'est l'émotion qu'a pu susciter cette affaire, comme on va l'appeler, au sein même de l'université.
Au-delà de l'émotion au sein de l'université et de son effet sur la communauté universitaire qui, dans un contexte comme le contexte d'extrême tension qu'on connaît actuellement, a besoin d'être unie et d'être sereine, c'est également l'impact que ça peut avoir sur l'image de l'université, l'image de l'établissement, où je pense le respect, la rigueur, le respect des personnes sont des valeurs qui doivent prévaloir et dont nous avons une responsabilité collective.
Des procédures sont donc ouvertes pour permettre de qualifier les faits, propos et agissements de Mathias Chocha qui auraient été de nature à porter atteinte à l'image de l'université ainsi qu'à l'honneur et à la probité académique et scientifique des enseignants. Ce sont les instances ad hoc qui vont être saisies pour tirer toutes les conséquences de ces constatations. Quant aux sanctions, elles peuvent aller de la mise en demeure à la mise en garde, voire à la suspension. Mais elles prendront bien sûr, cette procédure prendra bien sûr plusieurs mois.
Merci Elisabeth Noir.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
La sécheresse et les nombreux incendies de ces dernières semaines poussent les communes à prendre des décisions fortes. C'est le cas notamment du Mont d'Or qui interdit depuis hier et jusqu'au 31 mars l'utilisation du feu à usage non domestique. Les précisions d'Olivier Berthelot, adjoint au maire en charge de l'environnement.
La ville du Mont-d'Or a de nouveau repris son arrêté qu'elle met en œuvre maintenant depuis 2014, à savoir une interdiction des feux sur la commune. Il s'agit d'interdire tout ce qui peut être feu de jardinage, feu d'écobuage, mais aussi feu de barbecue serait fait dans un environnement naturel. C'est absolument essentiel. On est en grande période de sécheresse en Nouvelle-Calédonie et la ville du Mont-d'Or n'échappe pas à cette situation climatique. Et on se rappelle qu'en début d'année, le Grand Sud avait été la proie de flammes importantes avec des centaines d'hectares qui étaient partis en fumée. Et puis on se rappelle aussi, bien évidemment, la vallée de la Coulée en 2019. Donc on appelle nos administrés à respecter scrupuleusement leur réplique.
Les contrevenants s'exposent à des poursuites et à une amende. La ville rappelle que vous pouvez contacter directement le centre de secours et d'incendie du Mont d'Or au 43 68 04 au 43 68 04. Au chapitre des faits divers et en bref, à la vallée du Tir, la salle Anoui à nouveau incendiée. Cet après-midi vers 16h, les pompiers sont intervenus sur un départ de feu qui se trouvait dans les vestiaires, des vestiaires qui avaient déjà été détruits. À ce jour, le gymnase a été victime d'environ une quinzaine de fous d'exactions.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu, notre question du jour. Les organisateurs de la foire de Bourail ont-ils eu raison, selon vous, d'annuler l'édition 2024? Si vous pensez qu'ils ont eu raison, vous tapez 1. Si vous pensez qu'ils ont eu tort, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 83% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS disent attendre à des annonces importantes concernant la Nouvelle-Calédonie dans la déclaration de politique générale du Premier ministre. Ils sont 17% à ne rien en attendre de particulier. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. 17h58, nous marquons une première pause dans ce journal avant de développer la suite de l'actualité en Calédonie. On parlera d'abord de la mobilisation de la province sud aux côtés des demandeurs d'emploi qui sont en forte hausse. On se retrouve après la pub.
Et t'as pas pris ton vélo pour la sortie vélo?
Je dois le faire réparer, mais entre trouver un réparateur à côté de chez moi, digne de confiance et pas trop cher, c'est trop galère.
Oui, enfin, là aussi, tu galères sur ton ballon sauteur.
Vous du tout. Ouh.
Avec Bonus Répar, remettre en état son vélo, c'est moins compliqué qu'on ne le croit. Trouvez un réparateur de confiance sur irréparation.eco avec en bonus une réduction sur la facture.
Bonus Répar, c'est tout bonus.
Bonus Répar est financé par l'éco-participation versée par les adhérents à l'éco-organisme écologique.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059. La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux. Info soir, Isabelle Pelletier.
La province Sud tente de faire face aux difficultés liées au secteur de l'emploi. Depuis le 13 mai, si des milliers de Calédoniens sont désormais au chômage partiel, d'autres tentent de trouver un nouveau travail avec l'aide de la direction de l'emploi et du logement. Léana Colombo.
Oui, depuis le début de la crise, le constat est simple. On assiste à une hausse du nombre de demandeurs d'emploi inscrits à la DEL. On compte à ce jour 8200 demandeurs d'emploi actifs, soit plus 35% par rapport à janvier 2024. Une hausse importante, mais qui pourrait l'être encore plus dans les mois prochains, au moment où les 17500 bénéficiaires du chômage partiel pourraient rentrer dans le processus de recherche d'emploi. Et difficultés supplémentaires, la DEL constate une hausse des demandeurs d'emploi pour une baisse des propositions d'offres d'emploi. Les précisions de Marie Benzaglou, directrice de l'emploi et du logement à la province Sud.
Malheureusement, depuis le 13 mai, on a connu une grosse baisse des offres d'emploi disponibles, même si on assiste à une petite remontée ces derniers mois. Donc à aujourd'hui, on a 650 postes disponibles, qui sont donc des offres d'emploi qui sont enregistrées chez nous sur le site de la province Sud. En gros, ça représente un poste pour 13 demandeurs d'emploi inscrits. Donc c'est un ratio qui a doublé par rapport au ratio qu'on a habituellement et qui était plutôt de 1 poste pour 6 ou 7 demandeurs d'emploi inscrits chez nous. Sur les 650 postes disponibles, on a, comme avant la crise, des secteurs qui restent en tension, qui sont les secteurs du médical paramédical, de la comptabilité ou encore de l'informatique. Et là, on a maintenant dans les métiers recherchés également des métiers sur l'enseignement. Et puis, on a quand même des offres également qui commencent à arriver sur la sécurité gardiennage, bien entendu, le commerce, un peu de personnel de caisse, de la mise en rayon aussi, ou des inventaires pour des entreprises qui font aujourd'hui l'inventaire de leur stock ou de ce qui leur reste en tout cas.
Pour faciliter les recherches, la province Sud a mis en place des démarches simplifiées pour toucher le chômage et un accompagnement sur demande disponible via un formulaire en ligne sur son site internet. Pour le moment, 230 personnes ont contacté la DEL via le formulaire et ce chiffre est en augmentation. À l'antenne de Ducos, les demandeurs d'emploi sont nombreux et souvent dans des situations urgentes.
En fait, je suis à la recherche d'un emploi. Du coup, je suis venue photocopier des CV, puis prendre rendez-vous avec un conseiller.
Je suis venue chercher déjà un emploi pour regarder les offres d'emploi, là. Depuis les émeutes, je cherche en maintenance. Mais bon, c'est bon, j'ai pu trouver. Voilà. C'est urgent de trouver un emploi, il faut tout payer. Le loyer, l'eau, le courant et compagnie. Et pour vivre, il faut tout payer.
Vu la situation de maintenant, c'est compliqué maintenant de chercher du travail. J'avais déjà fait des remplacements, mais je recherche encore pour travailler, pour être en CDI, pour travailler, quoi, dans l'accompagnement de soins et services à la personne.
Je viens de perdre mon emploi il y a pas la semaine dernière. J'ai ouvert toutes les possibilités. Voilà. Donc je vais poser ma candidature et puis je verrai.
Les tâches des conseillers ont également évolué et une partie plus importante est dédiée à l'accompagnement psychologique. Des ateliers d'aide sont mis en place car les Calédoniens ayant perdu leur emploi se trouvent souvent déstabilisés par leur nouvelle position, explique Henriette Cotereux, conseillère à l'emploi à la province Sud.
Avant le 13 mai, si, il y en avait. Il y a des personnes qui ont toujours besoin d'être accompagnées. Moi, je leur propose un travail, travailler sur eux pour être prêts à l'emploi. Mais là, depuis le 13 mai, j'ai l'impression que dans la semaine, au quatrième jour de la semaine, j'en suis à 10 personnes qui ont besoin d'accompagnement psychologique, quoi. Enfin, qui ne sont pas bien émotionnellement, qui ne sont pas prêts émotionnellement à reprendre une activité, quoi. Donc, heureusement qu'on a ces ateliers pour nous aider. Je trouve que c'est très bien parce que ça leur permet de prendre de la hauteur. Il y a d'autres situations autour d'eux, des personnes qui vivent aussi la même situation de crise. Et du coup, ça leur permet de prendre de la hauteur, de prendre du recul et peut-être aussi, quelque part, de bénéficier des apports des autres.
La direction de l'emploi et du logement, c'est 8 antennes en province sud hors Nouméa et 2 sur Nouméa. 40 conseillers emploi-logement sont présents pour accompagner les demandeurs d'emploi dans leur démarche.
Et c'est la reprise des cours cette semaine pour les étudiants infirmiers et aides-soignants de l'IFPSS, une rentrée dans les salles de classe de l'UNC, Léana.
Les bâtiments de l'Institut de formation des professions sanitaires et sociales avaient été détruites dès les premiers jours des émeutes et par la même occasion, les formations avaient été suspendues le 14 mai. 4 mois et demi plus tard, une centaine d'étudiants a enfin retrouvé le chemin de l'école. Toutefois, la rentrée ne s'est pas faite dans les locaux de l'IFPSS, mais bien à l'UNC, qui met à disposition des salles de classe. Julie, Lorenzia et Claire sont étudiantes en troisième et dernière année à l'IFPSS et elles avaient hâte de reprendre leur formation.
Je suis très contente de reprendre, j'avais hâte. Très contente de retrouver la promo, même s'il manque quelques personnes qui sont parties en métropole. Mais motivée pour avoir notre diplôme, c'est dans 7 mois, donc voilà, motivée à fond.
Moi aussi, je suis très contente de reprendre, de revoir tout le monde, parce que moi, je me suis sentie isolée par rapport aux autres, comme j'étais de l'autre côté au mandat. Et le fait de revenir, de revoir un peu tout le monde, et on est resté solidaires pendant les émeutes, j'étais très contente.
Le contexte actuel fait qu'on est 2 fois plus motivé, dans le sens où cette formation qu'on mène depuis bientôt 3 ans, il faut qu'on la termine, et on est motivé à aller jusqu'au bout, et tout en se soutenant les uns les autres.
Lors de leur rentrée à l'UNC, les étudiants ont été accueillis par Catherine Ries. La présidente de l'université leur a rappelé à quel point ils étaient précieux dans cette période difficile. Une rentrée tout de même particulière pour Christine Bézier, cadre de santé et formatrice à l'Institut de formation des professions sanitaires et sociales.
De nouveaux locaux, certes, extrêmement déstabilisants. On est là, nous, pour sécuriser le plus possible cette reprise. On est là aussi pour leur redonner confiance dans le sens où ils ont réellement senti un abandon à l'interruption brutale de cette formation. Donc il faut leur redonner, pour les 3e années en tout cas, la confiance dans la fin de formation, l'obtention d'un diplôme d'État de bonne qualité aussi, parce qu'on n'abandonnera pas ce point-là de la formation. Donc dans la bienveillance et la bientraitance, on les amène à un diplôme d'État.
À noter que les étudiants en 3e année seront diplômés au mois d'avril et pourront ensuite exercer leur métier auprès de la population calédonienne.
Les bus Tanéo ont repris aujourd'hui dans le Grand Nouméa. Le nombre de lignes Tanéo est aujourd'hui de 12 contre 30 avant le 13 mai. Le ticket est désormais vendu au tarif unique de 500 francs, valable pour une durée de 3 heures. On écoute les usagers qui ont pris les bus Tanéo en provenance du Grand Nouméa pour la première fois aujourd'hui.
Ben là, je pense que c'est la première dernière fois que je vais prendre le car. Ouais, non, c'est mort. 500 francs tous les jours pour 3 heures de trajet. Enfin, on prend le car pour aller au travail, quoi. On va pas se promener.
500 francs, à mon avis, peut-être pour ceux qui viennent sur Nouméa, pour pouvoir effectuer des paperasses ou des occupations familiales, ça peut être rentable, mais pas pour des salariés ni pour des scolaires.
Ah oui, je suis contente, mais c'est trop cher les cars. Même là, c'était nous, là, on payait cher maintenant.
Je trouve que ça fait cher quand même, parce que moi, je suis à la retraite et au moins conserver la carte senior. Mais moi, si je dis ça à mes amis métropolitains, 500 francs, ils vont dire c'est exorbitant.
Ouais, c'est trop cher, 500. Faut redescendre à 300. Faut pas anarquer les gens. Et nous, on a besoin de ça aussi.
Rappelons que 2 bus ont été transportés par barge hier pour circuler dans le Mondor Sud. Notre magazine citoyen était consacré ce midi au bien vieillir et aux politiques mises en œuvre pour le bien-être des personnes âgées à l'occasion de la Semaine Bleue. Des politiques qui doivent s'adapter à un contexte parfois traumatisant pour les plus âgés, comme l'explique Liliane Candoumi, la présidente de l'ACAPA.
Elles ont été vraiment, elles sont apeurées, elles ne veulent pas sortir de leur maison. Elles ont peur, si elles sortent, de retrouver leur maison brûlée avec tous leurs souvenirs, etc. Et bon, bah pour l'approvisionnement, c'est pareil, parce que bon, nous, on a beaucoup de personnes âgées qui habitent dans les coins Tuban, Rivière Salée, etc. Et là, il y en a qui n'ont pas de famille. Je pense qu'il y a eu beaucoup de solidarité entre voisins, des gens qui ne se connaissaient pas du tout, et elles ont été aidées, mais enfin, ça a été, c'est dur, quoi, et c'est encore dur maintenant.
C'est cette vulnérabilité fait peur.
Si la fragilité psychologique des seniors a pu être accentuée par les émeutes, leur vulnérabilité économique a, elle, été aggravée par le contexte économique, ce qui peut aller jusqu'à provoquer des difficultés à se nourrir correctement. Valérie Leclerc est la directrice du CCAS de la ville de Nouméa.
Les personnes âgées, elles perçoivent soit une retraite, soit un minima social, le minimum vieillesse. Donc ce sont des petites ressources, en tout cas nous au CCS de Nouméa, c'est plutôt des personnes aux petites ressources dont on s'occupe. Le fait que plus aucune institution, hein, ni la province, ni le gouvernement, ni les CCS ne peuvent accorder d'aide financière depuis mi-juin, ça rend encore plus difficile leur situation, évidemment. Aujourd'hui, on s'appuie beaucoup sur les associations et notamment la Banque alimentaire, hein, de Nouvelle-Calédonie qui nous distribue des colis alimentaires et c'est notre seule réponse alimentaire aujourd'hui. Donc C'est difficile, mais je dois dire quand même qu'elles sont très compréhensives. Et c'est assez remarquable de la part de ces populations.
Nous étions aussi en compagnie de Cyrielle Cabard, directrice du GIP Handicap, Dépendance et Bien Vieillir, et par téléphone de Vanessa Chalère, la directrice adjointe du CCAS du Mont d'Or, un magazine animé par Nicolas Legrand, à retrouver en podcast sur notre site rrb.nc. C'est Bruno Aurelio, le gérant de la société Pacific Fair, qui sera demain notre invité du matin. La foire du Pacifique ouvre en effet ses portes vendredi. 250 exposants seront présents place de la Moselle jusqu'à dimanche soir. Bruno Aurelio, invité du matin, c'est demain à partir de 7h30. Il est 18h10, une seconde pause dans ce journal avant de jeter un coup d'œil à l'actualité régionale et culturelle. A tout de suite.
Besoin d'une pause gourmande? Faites escale au 140 Promenade Roger Larocque. Petit déjeuner, déjeuner, dîner, pause sucrée ou after work. Venez découvrir nos nouvelles saveurs et créations à l'escale. Nous vous accueillons tous les jours de 6h30 à 20h30 pour tous vos instants. Réservez dès maintenant au 23 01 30 et retrouvez plus d'infos sur notre page Facebook Château Royal.
Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, Cheyenne raconte une histoire aux tout-petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dom, la boutique des tout-petits. Petit Dom, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dom, on n'hésite plus, on y va.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Isabelle Pelletier.
Oui, avec l'actualité régionale et à Adélaïde, la capitale de l'Australie méridionale, la police aux frontières a saisi plusieurs équipements à caractère militaire, apparemment destinés à l'armée russe. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Les équipements militaires en question comprenaient notamment des drones de reconnaissance, une caméra thermique, du matériel tactique et divers appareils électroniques. L'enquête menée par la police aux frontières a établi que le matériel était probablement destiné à l'armée russe. Or, la vente d'équipements à caractère militaire à la Russie est interdite en Australie depuis 2014. Toute tentative d'exportation de type d'armes à caractère militaire ou d'articles militaires vers la Russie constitue une menace à la sécurité nationale de l'Australie, a déclaré un porte-parole de la police aux frontières, qui a ajouté que deux individus ont été interrogés dans le cadre de cette affaire. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Pour sa 14e édition Sublimage, le festival de l'image sous-marine qui captive les Calédoniens. Cette année, l'exposition est à découvrir jusqu'à dimanche à la salle d'honneur de l'hôtel de ville de Nouméa, Sarah Mégeri.
6 catégories sont présentées au concours photo et vidéo cette année. Des photos en noir et blanc, grand angle, macro proxy, en eau douce. On retrouve également une catégorie auteur calédonien, de photos prises en Calédonie par des résidents calédoniens. Et une nouveauté cette année, pour les 10 ans du Parc de la Mer de Corail, la catégorie Les Stars du Parc, qui met en valeur les animaux emblématiques du Parc de la Mer de Corail. Florine Boudin, présidente de l'association Sublimage.
Le festival de l'image sous-marine, donc l'image c'est la photo, c'est la vidéo, mais là on voit avec les stands que ça peut être la peinture, que ça peut être la science en fait, avec les associations paladéliques et le CIE. On a aussi Symbiose qui est beaucoup plus portée sur la vulgarisation scientifique. On a les Urban Sketchers qui viennent et qui ont cette année un stand et qui vont du coup faire des croquis, des images, des sculptures et qui vont inviter aussi les gens à venir croquer avec eux. Cette année, on a fait un partenariat avec le GIEP qui est à Nouville. Donc, il y a 9 stagiaires qui ont travaillé sur 4 œuvres. Donc, une en métal soudée, une en bois et après 2 autres en bois.
Ce samedi, à partir de 18h, c'est la remise des prix du concours des artistes qui exposent. Parmi eux, le célèbre photographe et plongeur Jacques Berthomier. Connu pour ses photos prises en apnée et sans flash, il participe au concours du festival Sublimage depuis 10 ans et il concourt à 4 thèmes proposés cette année.
J'ai commencé en 2010 par hasard, hein, avec un tout petit appareil, et j'ai un peu évolué avec un RX100 de Sony, c'est un petit compact, hein, mais comme je suis en apnée, c'est beaucoup plus facile pour moi qui fais des photos surtout en surface. Ma grande spécialité, entre parenthèses, ce sont les reflets. Les reflets en surface, la nuit, surtout je plonge beaucoup la nuit. Voilà, et je plonge toujours tout seul. Ouais, je vais vous montrer un reflet là si vous voulez. Alors il faut couler un tout petit peu, un mètre sous l'eau. Par habitude, vous finissez, même sans regarder dans l'appareil, vous finissez par avoir le reflet dans les yeux. Vous voyez comment ça se passe et là vous faites la photo.
Le festival Sublimage est à découvrir jusqu'à dimanche à la salle d'honneur de la mairie de Nouméa. L'exposition et les projections sont libres et gratuites. Toutes les informations pratiques sont à consulter sur le site www.festivalsublimage.nc.
Merci Sarah. Et le site historique de Lille-Nour ouvre ses portes après 4 mois de fermeture. Depuis le 13 mai, le musée du bagne de Nouville était fermé, mais il va rouvrir ses portes aux visiteurs du mercredi au samedi, et ce, dès demain. Seule une visite guidée qui a servi de phase de test avait été effectuée le 11 septembre dernier. Pour Adèle Simon, la directrice du site historique de Lille-Nou, il était temps d'accueillir à nouveau les visiteurs.
Le cœur de notre métier, c'est de vulgariser la connaissance historique pour le public, c'est d'ouvrir nos sites pour qu'ils puissent continuer à vivre, qu'on puisse découvrir leur histoire. Donc ça, c'est ce pourquoi je fais ce travail à la base. Donc c'est vrai que pendant 4 mois, avoir été empêchée de pouvoir ouvrir, d'accueillir du public, il y avait des gens qui m'appelaient. Là, ça fait du bien de pouvoir répondre à leurs appels, de répondre à leurs mails favorablement en leur disant qu'on pourra les retrouver sur le site historique.
Des propos recueillis par Léana Colombo. Le musée du bagne de Nouville sera ouvert du mercredi au vendredi de 13h30 à 16h30 et le samedi de 8h30 à 11h30. La prochaine visite guidée est programmée le mercredi 16 octobre de 13h à 15h. Inscription sur e-ticket.nc ou directement sur place. 18h16, on va maintenant passer à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous, Nicolas.
Alors, cette nuit sur l'Est, le début de nuit sera bien étoilé, puis des nuages sans conséquence déborderont sur le Nord-Est. Ailleurs, les nuages remonteront dans le courant de secteur Sud, se feront très nombreux. Des averses faibles se déclencheront sur la façade Ouest et au Loire-Gauté. Un vent de secteur Sud dominera, il oscillera entre 5 et 10 nœuds, excepté dans certaines vallées exposées de la côte Est où il sera accéléré. Les températures minimales seront comprises entre 16 et 20 degrés, localement 21 degrés, ce sera sur la pointe nord. Demain matin, sur la côte est, le soleil dominera. Ailleurs, et notamment sur l'ouest, il sera souvent contrarié par des remontées nuageuses accompagnées de quelques averses. Les éclaircies seront plus larges au Loyauté. Le vent de secteur sud soufflera généralement autour de 10 nœuds. La côte est sera souvent déventée, Isabelle.
Merci Nicolas pour cette météo et pour l'accompagnement technique. Il est 18h17, c'est la fin de ce journal.